France Musique. Les grands entretiens, Saskia Deville.
Bonjour, je suis Karine Dehaye, mezzo-soprano. Je suis née le 25 janvier 1972 à Rueil-Malmaison.
Vincero. 1998 marque votre entrée au sein de la troupe de l'Opéra de Lyon. C'est là que tout commence, Karine Dehaye, que vous apprenez réellement le métier.
Effectivement, la troupe, ça a été vraiment un passage extraordinaire pour moi, parce que en sortant du conservatoire, on n'a aucune expérience. Mais voilà, le pied à l'étrier, ça a vraiment été avec la troupe, parce que on est dedans. C'est 9 mois de suite, on travaille 6 jours sur 7. On peut déjà répéter un spectacle alors qu'on est sur un autre. On apprend vraiment le rythme de travail qui sera le nôtre par la suite. Et effectivement, à côté de ça, c'était le luxe de la troupe de Lyon, c'est qu'on avait les chefs de chant qui étaient à notre disposition, des coachs de langue, Ruben Lifshitz pour le lead, la mélodie, parce qu'on devait construire un récital par an, une fois par an, apprendre à construire justement un programme. Et puis la chance, oui, de travailler avec des metteurs en scène différents, des chefs différents, et de pouvoir aussi, au cours de l'année, voir comment se gère finalement une saison, parce que c'est complètement abstrait quand on sort du conservatoire. L'année d'avant, en fait, j'avais eu la chance de faire la Didone de Cavalli à Ambronay. Donc ça, c'était mon tout premier contrat avec Christophe Rousset, mais j'étais donc encore au conservatoire et encore dans une optique d'étudiante. Mais c'est vrai qu'à partir de 98, on se dit, ben ça y est, on est dans le grand bain, comme on dit. Et c'est vrai que ça a été 4 années d'apprentissage pour moi. Et en plus, dès la première année, on nous donnait l'opportunité de faire des premiers plans. C'est ça qui était super. On avait à la fois des seconds plans et des premiers plans. Et puis moi, j'ai eu la chance d'y être 4 ans et d'avoir pu faire, la prise de rôle de Cherubino dans Les Noces de la première année. Et puis ma première Rosine aussi, c'était là-bas. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un magnifique tremplin. Et en plus d'être en troupe avec des chanteurs de tout âge, c'est ça qui était génial. Je crois qu'on était une trentaine de chanteurs quand même attachés à la maison la première année. Et dans la troupe, il y avait des gens qui étaient aussi en fin de carrière. Donc en fait, on avait nos aînés et ils nous conseillaient. Jean-Marie Frémaux, baryton. Et il y avait aussi, par exemple, Marie-Thérèse Keller, qui était aussi en troupe. Je pense toujours à elle parce que dans Les Noces, justement, elle faisait Marceline. Et moi, c'était mon premier chérubin et elle avait forcément chanté chérubin. Elle m'a beaucoup soutenue. Et c'est vrai, voilà, d'être toute l'année avec des gens comme ça qui nous soutiennent, c'était juste une grande chance, quoi. Grande, grande chance.
De quel rôle rêviez-vous à vos débuts, Karine Dehaye ?
Je pense que j'ai toujours voulu chanter Rosine et Cenerentola. Ça, c'est des rôles qui m'ont tout de suite plu. Ça, c'est... Et puis voilà, de l'avoir fait pour la première fois à Lyon, voilà, un rêve s'est vraiment réalisé. Chez Rubin, on était un aussi, évidemment, mais Rosine, depuis l'âge de 14 ans, justement, je l'écoutais en boucle. Donc c'était quand même quelque chose qui m'attirait.
Et puis, il y a eu les concours. En 2001, le premier prix du concours Voix d'Or. En 2002, le premier prix du concours des Voix Nouvelles. Vous avez été finaliste du concours Opéralia, à l'époque aussi. Finale qui avait lieu au Châtelet, en même temps, je pense, que des répétitions à l'Opéra de Paris.
C'était même en même temps que les spectacles. C'était pendant le Roussalka. Et effectivement, alors ça c'est un souvenir incroyable, le jour de la finale, c'était le jour de la deuxième, je crois, de oui, c'était pas la première, c'était la deuxième, donc de Roussalka, avec René Fleming, et donc j'ai dû passer la première au concours pour pouvoir après être en scène, maquillée et évidemment
prête
pour attaquer l'acte 2, parce qu'heureusement mon rôle n'était pas l'acte 1, sinon je n'aurais même pas pu passer la finale du concours. Donc déjà j'avais la chance de n'apparaître qu'à l'acte 2, mais c'était très drôle parce qu'à l'époque on avait quand même pris la voiture estampillée Opéralia Domingo, il n'y avait pas de gyrophare, hein, mais on avait roulé quand même assez vite, je me rappelle, sur les quais entre le Châtelet et la Bastille pour pouvoir être à l'heure quand même pour le spectacle. Ça c'est un sacré souvenir, c'est vrai. Et voilà, non, j'étais déjà fière d'être en finale, parce que c'est quelque chose d'important. On se fait entendre par les directeurs de théâtre. Et d'ailleurs, c'est cette finale d'Opéralia qui m'a donné ma première Cenerentola.
Elle a une grande rencontre.
Ouais, exactement, à Bordeaux. Donc, de toute façon, voilà, ça donne toujours quelque chose de positif.
Vous êtes souvent produite, et je pense à cette période-là, suite à ce concours, dans les opéras de région. À vos débuts, je pense à Toulouse, Bordeaux, Avignon. On peut dire que vous y avez fait vos classes?
Complètement. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi, c'est toujours des rencontres, hein, d'avoir été très 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 soutenue par Raymond Dufaux à Avignon, très soutenue par Nicolas Joël à Toulouse, qui m'ont vraiment donné des prises de rôle magnifiques, avec qui aussi je pouvais parler répertoire. C'était juste, enfin c'est extraordinaire de pouvoir se dire voilà, pour l'instant tu peux faire ça et puis peut-être dans quelques années tu feras ça. Enfin c'est des gens qu'on c'est difficile de parler présent passé, parce que Raymond Dufaux, je peux encore l'avoir au téléphone, mais par contre Nicolas nous a quittés en juin. Voilà, c'est des gens qui avaient une oreille incroyable. Et qui étaient de très bons conseils. Et en région, effectivement, moi, j'ai toujours aimé, et je continue encore, d'ailleurs, je me dis toujours que c'est, même si on a la chance de faire dans des grands théâtres et dans les capitales, voilà, des spectacles, ça ne nous empêche pas de retourner là où on a fait aussi nos débuts. J'adore retourner, Avignon, Bordeaux, Toulouse. Il y a eu forcément aussi Lyon, Nantes, Angers, Lille, la liste est longue, hein, Marseille.
C'est une manière de retrouver aussi un public.
Mais complètement, ouais, voilà, exactement.
De fidèles,
et puis c'est aussi des théâtres magnifiques, ces acoustiques que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est. Je crois que l'autre jour on a calculé, c'était très drôle, pouvoir justement parler avec. Le Tous à l'Opéra, dont je suis marraine cette année, dans quel théâtre j'avais été. Et en fait, je crois qu'il n'y a que le théâtre de Limoges où je n'ai pas chanté, vous voyez, je crois.
Donc, il en reste encore. Oh bah. L'invitation est lancée.
Non, mais justement, c'est drôle parce que j'ai chanté partout dans les autres théâtres en France, même si c'était un concert en tout cas.
En 2005, ce sont vos premiers pas au Festival de Salzbourg, sous la direction de Riccardo Muti. Ça a été un moment aussi incroyable.
Ah bah bien sûr, là aussi c'est le rêve qui devient réalité. Salzbourg, parce que forcément, c'est la ville de Mozart, et c'est un très très grand festival. Et puis évidemment, Riccardo Muti, qui n'est pas quand même impressionné par ce grand monsieur. Et ça a été aussi un magnifique souvenir. La chance, en plus, de pouvoir refaire cette flûte en 2006 pour l'année Mozart, et en 2008 après.
Et vous chantiez la deuxième dame.
La deuxième dame, exactement. Ouais, ouais. La première fois, quand même, dans un lieu comme ça, mythique, ça marque beaucoup, ça c'est sûr.
Et c'est à ce moment-là que vous avez senti qu'un tournant s'opérait dans votre carrière ?
Je ne sais même pas si j'ai senti, vous voyez. Mais en tout cas, j'ai pris conscience que voilà, j'allais dans des endroits de plus en plus prestigieux. C'est vrai que je me rappelle forcément la première fois à Bastille, la première fois au Corrige d'Orange, parce que effectivement, quand on arrive sur le plateau, qu'on voit le mur humain devant, on fait « waouh ». Ça, c'est impressionnant, parce que quand on répète, il y a beaucoup moins de monde quand même. La première fois, effectivement, à Salzbourg, la première fois au Met. Et c'est vrai que tout ça, ça a été très rapproché, en fait.
Et le stress va-t-il crescendo ? On apprend à l'apprivoiser ?
Non, on apprend à l'apprivoiser, moi je dis. Alors, on ne le perd pas, ça c'est une évidence. Des fois, on nous pose la question si on l'a de moins en moins, mais pas du tout. Parce que justement, il y a des enjeux au fur et à mesure, ça c'est sûr. Mais oui, on apprend à l'apprivoiser. Et puis, de toute façon, là, justement, dans ce genre de production, on répète tellement en amont qu'on est heureux après quand arrive le spectacle aussi.
Et puis il y a sans doute des compositeurs qui vous rassurent, je ne sais pas, je pense à un certain Rossini, qui vous colle à la peau, Karine Deshaies.
Bah oui, c'est vrai que c'est un de mes compositeurs préférés. Ça, je peux pas le nier. Je fais du Rossini un peu tous les ans. Je découvre encore toujours du répertoire, donc ça, c'est juste aussi extraordinaire. Et c'est vrai que là, cette année, d'avoir pu faire mes débuts au Festival de Pesaro, le mois dernier, c'était juste inespéré. Donc, j'étais tellement contente.
Et en plus... Voilà, ville natale du compositeur.
Bah oui, oui. Et puis de se dire... j'ai toujours rêvé, moi, d'aller au Festival Rossini. Et puis, c'était un magnifique souvenir. Et je suis très heureuse d'y retourner l'année prochaine pour faire une prise de rôle, justement, pour faire Elisabetta. Donc, un autre rôle de la Colbran que je n'ai pas, justement, encore fait en scène. Et je suis trop contente, voilà, de pouvoir encore faire des prises de rôle.
Isabelle Colbran, donc, qui était la femme de Rossini, grande mezzo-soprano, pour laquelle Rossini a écrit des airs avec des vocalises redoutables, jubilatoires à la fois. Comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on travaille cet aspect-là ?
En fait, on travaille comme pour n'importe quel rôle, mais par contre, ces histoires de vocalises, à chaque fois, c'est ce que je dis, il faut savoir ce qu'on en fait, en fait. C'est pas on fait des notes pour faire des notes, c'est évident que c'est par rapport à ce qu'on doit montrer au niveau des sentiments. Et à chaque fois, alors il y a quand même le côté technique, hein, il y a l'aspect technique à travailler, ça, on va pas se mentir, notamment quand on travaille, par exemple, le rôle d'Armida, que Colbran aussi a créé, avec le contrut dès le début, il y en a plein, et puis le sol sous la portée. Tant qu'à faire, autant montrer toute la tessiture dans un air. Pas que dans 2h30 d'opéra, mais dans un air. Et ben, en fait, oui, après, il faut se l'approprier. Évidemment, il faut vraiment faire plus de la musique que des pirouettes, et ne pas montrer que c'est difficile.
France Musique, les grands entretiens de Karine Deshaies.
Rossini, c'est vrai que c'est un univers qui me plaît, en fait, ça c'est sûr. Et j'aime ce côté pétillant, joyeux, et en même temps, à côté, ce qu'on peut justement démontrer dans les opéras sérieux, les moments aussi émouvants, touchants, enfin moi, c'est toujours ça qui m'a plu justement chez Rossini, d'avoir les deux facettes. Et comme par hasard, c'était aussi quelqu'un qui aimait bien boire, qui aimait bien manger, qui avait une belle cave, il paraît, vous voyez, donc... Comme par hasard.
Voilà, au-delà voilà, de votre amour pour les vocalises, c'est une autre passion que vous partagez.
Exactement. Et en plus, l'autre point commun, j'ai toujours ça aussi en rigolant, son papa était corniste et mon papa est corniste. Donc je me suis dit, ben forcément, il faut que je fasse du Rossini.
C'est une évidence.
C'est une évidence.
Quels sont vos petits plaisirs, vous, dans la vie, Karine Deshaies, à côté des représentations, des voyages, qu'aimez-vous partager avec votre entourage, vos amis, votre famille peut-être?
Alors déjà, si on a très peu de temps, ce sera autour d'une table, ça c'est sûr. Partager.
Vous cuisinez ?
Alors moi, je cuisine pas forcément. C'est pas forcément mon. Je peux m'y mettre, attention, parce que grâce au confinement, j'ai vu que je pouvais le faire. Oh, extraordinaire. Mais je fais plutôt des choses simples. Non, en fait, je suis plutôt entourée de gens qui cuisinent bien, donc je me laisse plutôt chouchouter. Je pense à mon ami, je pense à mon papa, mon meilleur ami aussi. Ils cuisinent vraiment très bien. La barre est haute, donc moi, j'aime bien aller faire les courses avec eux au marché, choisir les produits.
Et accorder tout cela avec une bonne bouteille. Alors, vous avez une cave.
Oui. Alors oui, alors ça, par contre, c'est mon plaisir. Oui, ça, c'est sûr. Et notamment le champagne. Moi, c'est vrai que j'ai prédilection pour le champagne.
Avez-vous partagé une coupette lors de vos débuts au Metropolitan Opera à New York? C'était en 2006.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que je l'ai fait, ça.
Avec qui?
Eh ben, en plus, j'ai un très bon souvenir parce que le chef d'orchestre était français. C'était Bertrand de Billy. Et je peux vous dire qu'on a fait doublement coupette parce que quand il est arrivé aux répétitions, il avait le bras en écharpe. Il s'était blessé et moi j'avais le pied dans le plâtre quand même. J'ai fait des débuts assez remarqués au Met grâce à ça. Je suis arrivée avec un plâtre de marche. Je m'étais cassé le pied à Salzbourg l'été d'avant. C'était très chic. Et après quand même au bout de 15 jours on m'a enlevé le plâtre et j'ai couru comme un lapin. Mais les 15 premiers jours en répète, je boitais un petit peu. Donc mes collègues boitaient comme moi. On a bien rigolé. Je pense à Hildar, à Brazakov et à Ramon Vargas. Comme je pouvais pas marcher très vite, ben il marchait pas très vite puis il boitait comme moi. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de fou rire. Et peut-être que le stress, vous voyez, du pied cassé a remplacé le stress finalement de mes débuts au Met.
C'est ça que j'allais dire. La rencontre aussi avec le public américain.
Exactement. Ouais. Non, puis cette salle immense. Alors évidemment, j'avais auditionné dans cette salle vide. Donc ça m'avait beaucoup impressionné. C'était en 2004. Et je me rappelle d'une anecdote, un des techniciens est passé à ce moment-là quand je faisais une répétition sur le plateau et il m'a offert un clou tordu. Il m'a dit ça va te porter chance et je l'ai toujours, le clou, voilà. Donc je me dis que ça m'a porté chance.
Il y a eu un événement un petit peu particulier dans votre parcours, Karine Deshaies, une mésentente avec un metteur en scène, je pense à Michael Haneke. Vous avez quitté la production.
Oui, au bout de 2 semaines. Ouais, ça c'était décembre 2006. Ben, en fait, il n'y a pas eu d'alchimie, effectivement, mais même pas qu'avec moi, avec le chanteur aussi qui faisait Mazzetto. On ne correspondait pas au personnage que Michael Haneke avait en tête. Et dans ces cas-là, j'aurais envie de dire que ce serait bien que ces metteurs en scène assistent aux auditions quand on les passe 2 ans, 3 ans à l'avance et qu'on nous dise tout de suite, c'est comme au cinéma, parce qu'en fait, il vient du cinéma, blonde, brune, rousse, voilà, ça oui, ça non. Et que, on ne nous dise pas, effectivement, au bout de 15 jours, ça se passe pas bien. Ça serait plutôt ça. Mais en tout cas, je dois dire qu'à l'époque, c'était Monsieur Mortier, le directeur, et qu'il a été évidemment adorable avec moi, qu'il a compris qu'il y avait un problème d'entente, mais qu'il m'a tout de suite reproposé des rôles derrière, et que voilà, ça ne m'a pas du tout porté préjudice. Et le côté étonnant de l'histoire, c'est qu'effectivement, je n'ai pas pu créer cette production de Don Giovanni, donc c'était janvier 2007.
Mais vous l'avez retrouvé par la suite.
Et je l'ai retrouvé par la suite, et j'ai fait donc la dernière, d'ailleurs, en 2015, mais dans le rôle d'Elvire. Et puis peut-être que finalement, c'était ça. Peut-être que dans cette production, je correspondais pas à Zerline, et comme par hasard, je me suis sentie tellement bien dans Donna Elvira. Donc en fait, voilà, c'est là où on se rend compte que les destins sont... Il y a des choses très particulières, quoi.
Qu'attendez-vous justement de la part d'un metteur en scène avec qui vous travaillez?
Carine Alors, Dehaye. Par contre, moi, ce que j'attends, j'ai eu beaucoup de chance aussi, hein, j'ai eu des metteurs en scène avec des souvenirs magnifiques, c'est qu'il y a un échange, en fait, un vrai échange. Évidemment qu'on est guidé, hein, par le metteur en scène, et c'est pas à nous de donner notre vision de la mise en scène, mais en tout cas, qu'il y a un échange, parce que moi, j'aime beaucoup quand le metteur en scène nous demande si telle ou telle position va nous gêner ou pas pour chanter, si là on court, à ce moment-là, est-ce que c'est gênant, par rapport au moment aussi musical. Pareil aussi quand il y a des reprises. Moi, j'aime bien quand le metteur en scène revient et s'adapte aussi à la personne, à la personnalité, qu'on fasse pas du copier-coller. Voilà.
Vous pensez à un metteur en scène en particulier ?
Oui, moi, je vais nommer Olivier Py, que j'adore. Et j'ai fait deux reprises, en fait, déjà avec lui, c'est pour ça que je peux le dire. Et il était là. Et quand il y a des choses, voilà, il nous demande si ça va, il est toujours à l'écoute, quoi. C'est extraordinaire. Donc, ouais, je pense à lui en particulier.
L'importance du physique à l'opéra. Quelques timides voix s'élèvent aujourd'hui parmi les chanteuses quant à cette question-là de l'exigence d'un physique qu'on pourrait qualifier d'agréable sur les scènes opératiques. Avez-vous déjà été confrontée à une telle situation ? Qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je l'ai ressenti parce que j'ai des souvenirs quand j'ai auditionné jeune, hein, au tout début, de certaines personnes qui ont dit à mon agent qu'il fallait que je fasse un régime. Donc ça, je l'ai entendu. Dès le début, moi. Surtout que mon physique, on le voit, je suis pas androgyne, je fais pas du 36. Et comme je faisais des rôles de garçon, je j'étais pas dans le carcan, en fait. Après, on voit qu'on peut se transformer quand même. Et grâce au costume et au maquillage, on peut se transformer. Mais en tout cas, au départ, oui, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est très souvent apparu. Alors au départ, on est vraiment... Moi, j'ai même fait des régimes, hein, beaucoup, beaucoup de régimes. En 2005, j'ai perdu 13 kilos, hein, donc ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Mais je me suis dit, bon, bah, s'il faut faire ça, je vais le faire.
Mais de qui venait cette demande ?
Mais des directeurs de casting, des directeurs d'opéra, bien sûr, très souvent. Alors après, on comprend peut-être pour un rôle, un truc spécifique, mais c'est vrai que c'est récurrent. Mais je pense que c'est surtout par rapport à l'ère dans laquelle on vit, c'est-à-dire que c'est l'image. C'est sûr que il y a 30 ans ou 40 ans, on n'était pas axé la télé où on nous filme carrément que le visage, on voit le fond de la glotte. Enfin, c'est terrible, je trouve des fois. Quand on chante, on n'est pas toujours très très beau. Donc ils nous filment de très près. On a intérêt à avoir tous les plombages blancs, si vous voyez. Et effectivement, c'est l'image. Mais en fait, quand on est sur un plateau, c'est très loin. On peut être tout petit. Je veux dire à la Bastille ou à Orange. Que la personne fasse du 36 ou du 38, moi je vois pas la différence, hein, donc et de se dire, des gens comme Jesse Norman ou Montserrat Caballé ne feraient peut-être pas carrière actuellement parce que là on dirait qu'elles sont trop grosses, ben c'est quand même dommage, ce serait un gâchis énorme quand même. Donc je pense que ça dépend aussi des, peut-être oui, des rôles, des répertoires, mais malheureusement c'est vrai que souvent on entend ça, qu'il y a des choses par rapport au physique.
Il faut apprendre à se défendre dans ce métier.
Bah alors je dirais à se défendre, c'est toujours délicat parce que on a aussi notre agent qui est là pour nous défendre, mais à s'accepter, il faut apprendre déjà aussi à s'accepter. Ça, moi avec le recul et l'âge, je m'accepte, hein. Mais avant, quand on me disait que j'étais grosse, je me disais bah je suis grosse en fait. Donc j'ai beaucoup souffert de ça avant. Maintenant je fais de moins en moins de rôles de petit garçon. Donc je fais des rôles de femme. Donc si j'ai une robe comme ça et voilà la poitrine, on se dit ah bah là ça correspond, mais forcément ça dépend aussi de ce qu'on nous demande. Et puis oui, parce que maintenant aussi en scène, et moi il y a eu des productions, on me l'a demandé, on est en chemise de nuit, on est en maillot de bain, donc oui, les gens attendent un physique aussi, mais c'est vrai que moi j'ai eu ça aussi dans mon parcours.
C'est Miramide de Gioachino Rossini pour refermer ce quatrième épisode des Grands Entretiens avec Karine Dehay. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Dumont, mixage d'Ofar Guérid, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.